Question d'islam par Ghaleb Ben Cheikh. Aujourd'hui, nous parlons de lumière, d'optique, de science, de physique aussi, avec le physicien Azzedine Boudrioua. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, monsieur le professeur. Vous êtes professeur à l'Université de Paris 13. Vous dirigez un laboratoire de recherche avec une équipe de recherche à l'Université Paris 13, encore une fois. Et vous êtes dans l'équipe de coordination et de pilotage qui a mis en œuvre l'année de la lumière, qui se trouve être l'année 2015. Je pense que c'était une décision du 20 décembre 2013 par l'Assemblée générale de l'ONU, mais qui devait avoir lieu 2 années plus tard, et notamment à l'UNESCO. Et si vous êtes dans cette émission « Question d'islam », c'est pour parler des scientifiques, et notamment des physiciens musulmans d'expression arabe. Et nous avons pris comme figure emblématique la figure d'Al-Hazzan. Moi, je le latinise, il est connu parmi les auteurs latins par Al-Hazzan, qui est une corruption d'Al-Hassan, qui est un de ses prénoms, Ibn al-Haytham. Alors, qui est d'abord ce programme de la lumière, et puis nous parlerons d'Al-Hazzan.
Effectivement, en 2015, nous avons célébré l'année internationale des sciences de la lumière et des technologies basées sur la lumière. D'ailleurs, au passage, suite au succès de cette année internationale 2015, les Nations Unies et donc l'UNESCO ont décidé de prolonger cette célébration et établir une journée internationale de la lumière, en principe, qui aura lieu le 16 mai 2018. Et ça sera célébré tous les ans. Ça, c'est effectivement pour montrer aussi l'engouement qu'a suscité cette année internationale de la lumière. Et à cette occasion, nous avons eu la chance, effectivement, de se focaliser en partie sur la contribution des savants arabo-musulmans aux sciences de la lumière et à leur tête, comme vous venez de le souligner, Al-Hazzan ou Al-Hassan ibn al-Haytham.
Oui. Je témoigne personnellement que l'année 2015 était aussi, dans ce domaine, une année d'engouement. Il y avait des congrès, des symposias, des colloques, des conférences un peu partout en France et de par le monde sur la notion de la lumière d'un point de vue physique, d'un point de vue physiologique, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue artistique, d'un point de vue spirituel. Et c'est vrai, donc si je comprends bien, le 16 mai sera l'année de la lumière.
Ça sera la journée internationale de la lumière.
Pardon, la journée internationale de la lumière.
En principe, c'est en cours de validation par l'Assemblée générale de l'UNESCO. Mais tout laisse penser à ce que effectivement ça sera le cas, et on l'espère. Et donc tous les ans, tous les 16 mai de chaque année, on célébrera la lumière dans toutes ses formes, y compris aussi l'aspect spirituel, philosophique.
Alors revenons à Abu Ali al-Hassan ben al-Hassan ibn al-Haytham. J'ai dit tout à l'heure corrompu en latin par Al-Hazzan. Certains disent Al-Hassan avec C, nous disons Al-Hazzan avec Z. Alors, qui est-il?
C'est une question qui nécessite plusieurs réponses, j'allais dire. Al-Hassan, c'est, pour simplifier déjà, c'est le grand maître de la lumière. C'est le père fondateur des sciences de la lumière et de l'optique telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'est véritablement un tournant dans la recherche scientifique, dans les sciences de l'optique. Il est natif de Bassora en Irak.
En 1965,
effectivement. Ce qui est curieux, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur son enfance, en réalité. Il y a très peu de choses qui sont connues sur son enfance et sa vie à Bassora. Par contre, on sait qu'il est parti en Égypte.
Pardon, d'abord à Bagdad pour compléter sa formation. Et après, il ira au Caire.
Effectivement, mais c'est une période qui est assez méconnue. que, au passage, peut-être on en parlera tout à l'heure, que certains travaux révèlent qu'il existe deux Ibn al-Haytham.
D'accord.
Dont Mohammed Ibn al-Haytham, qui lui a vécu à Bagdad, et qui a toujours vécu et resté à Bagdad. Par contre, Al-Hassan, lui, ce que les historiens ont établi avec certitude, c'est que effectivement, il est parti assez tôt au Caire, et il a vécu au Caire jusqu'à sa mort au Caire.
Très bien. Donc, il y a une méprise à propos de l'homonymie, puisque celui qui aurait vécu à Bagdad et qui serait venu au Caire, est-ce à la demande du calife Fatimide à ce moment-là, ou simplement celui dont vous authentifiez en tout cas la présence relativement tôt au Caire et est resté sur place, et de ce point de vue-là, le calife n'a pas à demander sa venue puisqu'il est déjà in situ.
En fait, il faut différencier effectivement les choses. Mohammed ibn al-Haytham, lui, il est resté à Bagdad, c'est plutôt un érudit en médecine, en philosophie, c'est un peu mathématicien, mais plutôt sur des aspects de compilation. Par contre, Al-Hassan ibn al-Haytham, qui lui, il est parti au Caire près vers 1010, on est effectivement, comme vous venez de le dire, à l'époque du calife Fatimide al-Hakim. Et par contre, il y a plusieurs, on va dire, plusieurs légendes qui sont racontées sur son arrivée au Caire. L'une qui est racontée par Al-Qifti, qui est l'un des bibliographes de l'époque, sachant que Al-Qifti, c'est deux siècles après Ibn al-Haytham. Il raconte qu'effectivement, que la réputation d'Al-Hassan ibn al-Haytham était connue par les califes fatimides. Et c'est le calife fatimide Al-Hakim qui a demandé à Al-Hassan ibn al-Haytham de venir au Caire, parce qu'il aurait entendu parler de ses compétences en matière de génie civil notamment. Et c'est suite à cela que Al-Hassan ibn al-Haytham est arrivé au Caire. Alors, il y a plusieurs légendes qui se racontent, mais je pense que ce qu'il faut retenir comme chose factuelle, comme fait, c'est qu'effectivement, c'est suite à la demande de Al-Hakim qui est arrivé au Caire pour justement réfléchir sur la possibilité de contrôler le Nil et d'essayer d'utiliser le Nil pour l'agriculture et d'autres biens pour la société de l'époque.
Bien, alors, si vous permettez, professeur Boudriwa, un peu d'ordre dans cette confusion et méprise chez les historiographes à cause de l'homonymie des deux savants. Celui qui nous intéresse, c'est Al-Hassan. Il est venu, à ma connaissance, je le dis sous votre contrôle, au Caire, un peu au tournant du XIe siècle, donc on est vers 1002, 1003, quelque chose comme ça, et il y avait un sérieux problème que le calife Al-Hakim voulait en tout cas régler, endiguer, c'est selon les crues du Nil, ces inondations, et donc il fait confiance au premier ingénieur, en quelque sorte, pour endiguer ces crues.
Tout à fait. C'est effectivement, il fait confiance au génie de l'époque. Il paraît-il, suite à cela, Al-Hassan ibn al-Haytham a organisé une expédition pour essayer justement d'étudier la question.
De remonter aux sources
du Nil. Tout à fait. Et durant ce voyage, c'est là où il a découvert les vestiges de la civilisation pharaonique. Et paraît-il, il se serait posé la question en disant que si ses ancêtres n'ont pas pu contrôler le Nil alors qu'ils avaient tout ce génie-là, comment nous, on peut résoudre ce problème ? Toujours est-il, il est allé jusqu'au bout et effectivement, il s'est rendu compte très vite que ce n'était pas possible. Et lors de son retour voir le calife, il lui a tout simplement fait part de l'impossibilité scientifique et technologique de ce projet. Et par la suite, il s'est établi au Caire pour continuer ses travaux et notamment, entre autres, ses travaux sur l'optique.
Alors, il y a un autre point qui relève assurément de la légende. C'est que le calife lui-même était considéré comme un calife fou de par son intolérance. Et cette fois-ci, le scientifique lui-même a simulé la folie pour échapper au courroux du calife.
Alors, sur ces questions, je pense qu'effectivement, il faut peut-être essayer de séparer les choses. Effectivement, on attribue au calife Al-Hakim une attitude coléreuse, parfois de violence. Il avait effectivement, on raconte qu'il avait peut-être certaines attitudes vis-à-vis des femmes.
Ah oui, il était misogyne.
Un peu misogyne. Et d'ailleurs, même, paraît-il, c'est plutôt sa sœur qui aurait organisé son assassinat. Par contre, sur la question d'Ibn al-Haytham, il me semble que, du point de vue historique, quand on essaye de s'intéresser vraiment aux faits historiques, ça reste une légende. C'est-à-dire que, tout simplement, il est revenu voir al-Hakam, il lui a fait part de l'impossibilité de ce projet, et que par la suite, tout simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'est concentré sur ses travaux. Il ne faut pas oublier aussi qu'à l'époque, le Caire, l'Égypte, était un centre de savoir, parmi les plus grands centres de savoir de l'époque, de l'Empire musulman. Donc, c'est vraiment aussi un aspect qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire qu'il y avait un environnement culturel, scientifique, très favorable.
Oui. D'une manière incidente, je ne m'y appesantis pas, vous avez évoqué l'assassinat, puisqu'on parle de disparition au sens premier du terme. On n'a jamais trouvé la dépouille mortelle, le corps, le cadavre du calife Al-Hakim. Alors probablement, ce serait sa sœur qui avait commandité l'assassinat. Et on avait dit aussi qu'il était dans une telle vision d'ostracisme vis-à-vis des femmes qu'il avait interdit la fabrication des chaussures pour qu'elles ne sortent pas.
Effectivement, c'est des choses qu'on trouve par-ci par-là quand on s'intéresse à cette époque. Et d'après ce qu'on sait, lors d'une sorte avec pour une balade à cheval, apparemment il serait jamais rentré chez lui, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Et effectivement, vu son attitude et notamment vis-à-vis des femmes et même les femmes de
son entourage,
Donc effectivement, il y a une hypothèse qui dit que ça serait sa sœur qui aurait organisé sa disparition.
Alors revenons à ce qui nous intéresse, et c'est davantage Al-Hasan. On est entre 1015 et 1021, sur 6 années. Si on reste dans la légende d'être confiné, assigné à résidence, ou peut-être tout simplement en homme libre, il a fait des travaux, et des travaux majeurs, en optique.
Tout à fait. C'est véritablement ce qu'il faut retenir. Je pense factuellement il était libre de ses mouvements. C'est là qu'effectivement il a développé tous ses travaux, pas uniquement en optique, mais c'est vraiment un polymathe, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'intéressait à différents aspects des sciences, et particulièrement évidemment les sciences de la lumière.
Parce qu'en réalité il était, de nos jours on aurait dit, à la fois un ingénieur, un physicien, un scientifique qui a jeté les bases de la méthode scientifique, mais il lui est aussi arrivé de s'intéresser à quelques aspects d'anatomie, de physiologie, notamment de l'œil.
Ça va ensemble, j'allais dire, effectivement, parce que si on remonte un peu l'histoire, l'étude de l'optique, qui on doit cela notamment aux érudits de l'Antiquité grecque, et à cette époque-là, on s'intéressait plus à la vision qu'à la lumière et à l'optique. Donc évidemment, il y avait cet héritage de l'étude de la vision. Et qui dit étude de la vision, c'est la physiologie de l'œil notamment. Donc il y avait un certain nombre de travaux hérités de la période antique, mais qui concernent uniquement la vision. Et c'est là où le changement est très important, c'est-à-dire avec Ibn al-Haytham, on change complètement de registre. On s'intéresse pas à la vision uniquement, mais on s'intéresse aussi à la lumière comme agent physique. C'est-à-dire c'est le premier qui va étudier la lumière comme une substance physique. Pas forcément pour la vision, et qui déconnecte les deux d'ailleurs. Il s'intéresse à la vision, effectivement à l'optique physiologique, il va développer l'optique physiologique, il va aller plus loin que ce que les Grecs tels que Euclide, Ptolémée ou Galien avaient fait. Et donc il va plus loin dans cette étude. Mais par contre, ce qui est vraiment important, et il faut insister là-dessus, c'est que c'est le premier qui s'intéresse à l'étude de la lumière en tant que substance physique.
Et il corrigera cette idée que ce n'est pas l'œil qui fait projeter une lumière pour pouvoir voir, mais ce sont plutôt les objets qui, en illuminant en quelque sorte, qui sont perçus par l'œil.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, avant lui, il y avait, pour simplifier, il y avait deux théories qui régnaient, la théorie de l'extramission et de la théorie de l'intromission. C'était plutôt la théorie de l'extramission qui a dominé, qui était un peu plus ou moins imposée par Euclide notamment et ensuite par Ptolémée. Effectivement, on pensait que c'était l'œil humain qui, par un feu intérieur, qui envoyait des rayons qui vont prendre une copie des objets externes, et c'est comme ça qu'on voit le monde externe. Et lui, il a dit non. Ça, c'est totalement faux. Donc, c'est vraiment, on est à un changement de paradigme. Et c'est à partir de là qu'effectivement, il s'est intéressé d'abord à la vision, mais aussi à la lumière, comment elle se propage, comment elle y réfléchit, comment elle se réfracte. Et puis même, à des questions sur les aspects physiques, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la lumière et comment expliquer les phénomènes lumineux.
Alors, il avait un argument de taille et d'évidence, c'était que si on reste dans le paradigme de l'extramission, on pourrait voir la nuit.
Tout à fait.
Et comme on ne voit pas la nuit, donc de fait, ce n'est pas l'œil avec un feu intérieur qui projette une sorte de spot lumineux, mais c'est lorsque les objets sont éclairés que l'œil les perçoit.
Ce sont des idées peut-être simples, en tout cas qui nous paraissent aujourd'hui des idées simples, mais il faut revenir à l'époque, on est 10e siècle, début du 11e siècle, et effectivement c'est une révolution intellectuelle, conceptuelle, philosophique et scientifique.
Oui, et on ajoute que c'est lui qui a mis en pratique, sans le savoir, le fameux rasoir d'Occam. Pourquoi aller à des choses plus compliquées quand au niveau des théories, on a des choses simples? L'argument le plus classique à propos du rasoir d'Occam, si j'entends un galop, je ne pense pas aux zèbres, je pense au cheval. C'est-à-dire qu'il faut aller à ce qui est plus simple. Et là aussi, dans son raisonnement, il voulait établir des théories plutôt simples. Un autre aspect, professeur Boudliwa, c'est quand il a fait la dissection de l'œil. On a en tout cas des gravures ou des planches, on aurait dit, qui sont proches de celles déjà de Galien. Alors, est-ce que ce sont des connaissances qu'il a réactualisées ou tout simplement les deux dissections se sont trouvées dans une forme de congruence et elles sont jointes?
Alors, pour répondre à cette question, il faut comprendre une chose très simple, encore une fois. C'est qu'en fait, lui, contrairement à ses prédécesseurs, il a fait ce qu'on appelle à la fois de l'optique physiologique descriptive et de l'optique physiologique fonctionnelle. C'est-à-dire il est allé beaucoup plus loin, non seulement d'essayer effectivement l'œil pour comprendre, ou en tout cas pour décrire l'objet de cette étude, mais aussi il a apporté des aspects sur le fonctionnement. Comprendre quel est le rôle de chaque organe et comprendre comment l'image se constitue. Et sur cet aspect, pour revenir un peu à sa théorie, il y a aussi quelque chose d'important à souligner, c'est qu'on est passé d'une vision, en tout cas de la production de la vision d'un objet dans sa totalité, à quelque chose qui va devenir produire une image point par point. Et ça, c'est quelque chose qui reste, qui est vraiment le fondement de ce que nous connaissons aujourd'hui, la construction des images à travers des lentilles ou à travers des systèmes optiques. Maintenant, on sait qu'effectivement, chaque point d'un objet émet un rayon et après, c'est le système optique qui va reconstruire cette image.
Oui, et donc il précisera le rôle de la conjonctive, de la cornée, du cristallin.
Tout à fait.
Et pour l'époque, c'était d'une grande modernité.
Il était dans cette approche de physicien expérimentateur, parce qu'effectivement, il faut aussi le souligner, c'est le premier, j'ose dire, c'est le premier physicien au sens propre du terme, tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, effectivement, non seulement il s'intéresse aux phénomènes naturels pour essayer de les comprendre, de les expliquer, mais aussi d'apporter des modèles physiques, de mathématiser les phénomènes. C'est très important aussi. Dans cette approche, c'est ce qui lui a permis d'ailleurs, cette étude de l'optique physiologique, c'est ce qui lui a permis aussi de développer d'autres aspects, comme par exemple la caméra obscura, la chambre noire, et qui sont connectés d'ailleurs. En fait, en étudiant la chambre noire, il a aussi, dans sa tête, c'est une supposition, mais on peut penser qu'effectivement, en étudiant la chambre noire, il pensait aussi à faire des expériences pour comprendre comment s'effectue la vision. C'est pour ça qu'il faisait des expériences en variant le diamètre du trou par lequel passait la lumière et ainsi de suite.
Alors nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Azzedine Boudriwa, physicien. Vous dirigez à Azzedine Boudriwa une équipe de recherche et vous avez été parmi les artisans, ou en tout cas le coordinateur avec d'autres de l'année de la lumière en 2015, notamment à l'UNESCO. Et vous avez en charge le programme des savants musulmans d'expression arabe, comme on dit maintenant avec beaucoup de rigueur, parce qu'ils n'étaient pas tous de souche arabe. Et nous parlons tout particulièrement de la figure emblématique qui est celle d'Al-Hazzan comme physicien. Il y a aussi un autre aspect, c'est que son livre, le traité d'optique, traduit par des aspectibus, ou aussi, si je prononce bien, Opticae Thesaurus, Al-Hazzan Arabis, en tout cas en latin. Et c'est un ouvrage qui lui a pris 6 années au plus pour le composer, et surtout qu'il a 7 volumes importants, 7 portiques, on dit, ou 7 gros chapitres, 7 tomes en tout cas.
Tout à fait.
Et alors, vous pouvez nous décrire au moins quelques-uns parmi ces tomes?
Alors, d'abord, quelques mots sur le livre lui-même.
Ah parce oui, effectivement, sur le traité d'optique.
C'est l'œuvre majeure, je dirais, dans le domaine de l'optique d'Ibn al-Haytham, Kitab al-Manazir.
Oui, en arabe,
Kitab al-Manazir, le livre de l'optique. Effectivement, on sait qu'il a été élaboré aux alentours de 1028 et traduit en latin par une équipe de Gérard de Crémone,
oui,
qui était connu dans la traduction à l'époque, et par la suite a été diffusé par un certain nombre de d'érudits latins, tels que Robert de Grosstête, Vetello, le Polonais, Roger Bacon, qui étaient d'une certaine manière les disciples d'Ibn al-Haytham, parce qu'ils ont effectivement étudié ce livre. Et ce livre, qui était d'ailleurs la référence de l'enseignement de l'optique, il faut le souligner, de l'enseignement de l'optique dans les universités occidentales jusqu'à pratiquement du 7e, 18e siècle.
Jusqu'aux théories de Snell ou de Fresnel ou...
Bien plus tard.
Bien plus tard.
Parce que Descartes et Snell, c'est le 15e, 16e. Mais par contre, on sait très bien que tous les savants de la Renaissance, y compris René Descartes, Laurent Landais Snell, Kepler, ils ont d'abord étudié l'optique d'Ibn al-Haytham. Et notamment grâce à la diffusion de ce livre, par sa première édition imprimable, grâce à Reissner, qui était un imprimeur du côté de Bâle, et qui effectivement, c'était vraiment la référence de l'optique.
Professeur Boudriwa, je pensais aussi à Vitellion, moi je l'appelle ainsi. Lui, sa traduction, c'était plutôt des perspectiva.
Tout à fait.
Et on pense que c'est à partir de cela qu'on a été ramené dans un espace bidimensionnel à introduire la troisième dimension pour avoir la perspective.
Tout à fait. Et puis la traduction de Vetello, en fait, effectivement, après chacun fait son point de vue, mais effectivement, c'est c'est presque une copie de travaux de Ibn al-Haytham, effectivement, dans les travaux qui ont été publiés par Vitello. Et pour le livre de l'optique d'Ibn al-Haytham, vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, c'est un livre qui contient 7 volumes. Durant ces 7 volumes, on voit bien l'œuvre de ce génie, en commençant par essayer de mettre de l'ordre dans la pensée concernant les sciences de l'optique à l'époque, revenir sur la conception de la vision par les Grecs, et à partir de là, construire une nouvelle théorie qui lui a permis de développer une nouvelle recherche totalement novatrice qui se décline sur différents aspects dans les différents volumes, allant de l'étude de l'optique physiologique jusqu'à l'étude de la réflexion, de la réfraction, et qui permet justement de faire une forme de compilation des sciences de l'optique à cette époque-là. Et qui émet les bases de la succession qu'on voit, dont on parlait tout à l'heure, qu'on va venir à partir du 15e, 16e siècle en Occident.
Alors, il n'était pas que physicien, ou du moins, il décryptait le monde et les phénomènes naturels, et un physicien n'est rien d'autre qu'un philosophe de la nature, comme on dit. J'ai appris qu'Ernest Mach, bien plus tard, était titulaire de la chaire de la philosophie de la nature. Et donc, Al-Hasan, Ibn al-Haytham, s'était aussi intéressé à d'autres problèmes d'ordre mathématique. Est-ce que vous pouvez nous parler du billard d'Al-Hasan, ce problème qui a résisté, lui il l'a résolu par des coniques, mais qui a résisté à son algébrisation, du moins sa résolution, jusqu'en 1997.
Cette question me permet un peu aussi de mettre un peu d'ordre dans
tout ça.
Dans tout ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, il y a deux aspects. Il s'est intéressé à deux aspects. Il y a des aspects, ce qu'on pourrait appeler études théoriques, modélisation mathématique, et des aspects approche expérimentale, expérimentation dans le domaine de la physique de manière générale. Sur les aspects, modélisation mathématique et études théorique, on va dire, il est connu par ce qu'on appelle le problème d'Al-Hasan. Il y a le problème d'Al-Hasan simple et le problème d'Al-Hasan compliqué. Le problème d'Al-Hasan simple, c'est en fait la question la suivante. Vous prenez une interface qui sépare deux milieux, ce qu'on appelle un dioptre, et vous prenez deux points, A et B, et la question qui se posait, quel serait le point d'impact de la lumière qui partait du point A pour aller vers le point B? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le principe de Fermat, d'une certaine manière. Mais il a déjà anticipé ce principe, déjà 5 siècles, 6 siècles avant. Donc ce problème, il l'a résolu d'une manière très simple. Et c'est quelque chose qui est effectivement très simple à résoudre. Par contre, le problème d'Al-Hasan, le problème plus compliqué, qui s'apparente à une expérience de billard, mais en réalité, il s'intéressait en fait à la réfraction et la réflexion de la lumière à l'intérieur d'une sphère. Ce que nous n'avons pas dit aussi, et peut-être c'est l'occasion de le souligner, c'est qu'en fait, dans cette activité scientifique, de recherche scientifique sur la lumière, les savants arabo-musulmans s'intéressaient à développer ce qu'on appelle les instruments ardents. Parce qu'effectivement, derrière tout cela, il y avait aussi l'idée probablement de développer une arme qui permettait de focaliser la lumière et de concentrer la lumière.
Les fameux miroirs ardents, parce qu'on voulait expérimenter la légende réelle ou supposée de Syracuse.
D'Archimède, effectivement, qui aurait utilisé 24 miroirs pour concentrer la lumière sur la flotte de Syracuse. Et donc, il y avait cette question d'essayer de comprendre comment la lumière se propageait à travers des instruments optiques de type sphère, comment elle se réfléchit à l'intérieur. Et donc, la question qui se posait, c'est partons d'un point donné, quelle serait la trajectoire de la lumière dans cette sphère, avec des réflexions multiples et des réfractions, pour revenir au point de départ? Et ça, c'est un problème très compliqué, y compris mathématiquement. Et ça a pris plusieurs siècles pour le résoudre. On le doit notamment des solutions à Huygens, à Grégory ou Guillaume de l'Hôpital. Oui. Et c'est tardivement qu'effectivement qu'on a commencé à résoudre ce problème mathématiquement parlant.
Et Christian Huygens a réussi ou c'est une approche
Il a apporté une solution, effectivement, à ce problème, parce qu'il fallait développer toute une mathématique de polynômes de degré supérieur qu'à l'époque d'Alhazen, on ne maîtrisait pas forcément. Et donc, ce n'est que tardivement qu'on a commencé à apporter des solutions à ce problème, mais qui reste toujours posé.
C'est-à-dire qu'effectivement, Et quand on le ramène à son appellation, le billard d'Alhazen, nous le disons pour nos chers amis auditeurs, c'est que sur une table de billard, j'ai deux boules A et B. Comment vais-je faire pour frapper la boule blanche pour que lorsqu'elle rebondit au moins une fois, la boule A vient percuter la boule B?
Tout à fait. Et d'une certaine manière, j'aime bien cette description, parce que ça me permet aussi de souligner un autre aspect qui est très important dans ce qu'elle a fait. Vous parlez de billes et de billard. Mais dans sa conception de la lumière, parce qu'on disait tout à l'heure qu'il s'est intéressé à l'aspect physique de la lumière.
C'était corpusculaire.
Tout à fait. C'est-à-dire que c'est le premier qui, en tout cas, qui réfléchit sur la nature de la lumière et qui propose cette idée de dire la lumière, ce sont des billes qui se déplacent avec une vitesse très importante mais finie. C'est-à-dire que c'est très important aussi à souligner. Donc on est dans cette, si on veut, on est dans cette approche corpusculaire de la lumière qui a été repris par la suite par Isaac Newton et qui a développé cet aspect.
Alors, sans vouloir dire qu'il a été précurseur surtout, mais en tout cas ce sont des choses que vous connaissez infiniment mieux que moi, mais il serait aussi en tout cas initiateur, ou en tout cas il a eu l'intuition du principe d'inertie. C'est-à-dire lorsqu'un mobile est animé d'une certaine vitesse, s'il n'y a pas de frottement, s'il n'y a pas de déviation de trajectoire, il continuera à se mouvoir indéfiniment.
Je pense qu'on peut le dire, même je dis ça avec beaucoup de précautions,
prudence,
mais on peut le dire, parce qu'effectivement, il y a un autre aspect peut-être qui n'est pas forcément l'objet de cette discussion, mais sur lequel ça serait intéressant de revenir. Parce que il a développé aussi tout un travail de recherche dans le domaine de l'astronomie, de la cinématique des planètes, et c'est là aussi, on trouve aussi un certain nombre d'idées précurseurs, précurseuses de ce qui se fait aujourd'hui. Après, effectivement, il faut prendre les choses avec prudence et pas forcément faire des raccourcis. Je pense que l'effet qu'il faut retenir, c'est quelqu'un qui a aimé les bases de l'optique moderne, avec des principes et des idées totalement révolutionnaires de son époque. Effectivement, vous l'avez dit, on lui doit la méthode scientifique. L'approche expérimentale.
Roger Bacon l'atteste et le reconnaît.
Mais il faut savoir que tous les savants de la Renaissance l'attestent et le reconnaissent, notamment dans le domaine de l'optique. C'était la référence de l'enseignement de l'optique, encore une fois. C'est que tardivement qu'effectivement il a un petit peu disparu des radars, mais...
On verra à la fin de l'émission comment on lui a rendu hommage. Je voulais m'attarder un tout petit peu, si vous voulez bien, Azdine Boudriwa, sur l'astronome cette fois-ci. Il s'est intéressé, j'allais dire, à la hauteur de l'atmosphère et puis à une tentative d'explication de détails de la Lune et du Soleil quand on les voit à l'horizon.
Effectivement, sans aller sur ce terrain-là qui sort un peu de mon champ d'investigation, en tout cas pour le moment, puisque je me concentre beaucoup effectivement sur les aspects optiques, mais c'est une conséquence, c'est un impact de ces travaux, ce que vous dites là. Effectivement, c'est le premier qui a associé la perception du monde à l'état psychologique de l'individu. Et effectivement, c'est le premier qui explique le fait que quand on voit la Lune à l'horizon, en fonction du paysage qui nous entoure, on a l'impression qu'elle est de taille petite, de taille de grande taille. Mais en fait, c'est pas la taille de la Lune qui change, c'est notre perception de la Lune, parce que l'être humain compare les dimensions des objets. Et donc, si vous voyez un arbre et au-dessus la Lune, vous avez l'impression que la Lune est plus grande s'il n'y avait pas d'arbre. Et c'est le premier qui donne cette explication, effectivement.
Et pour revenir à ce qui relève de votre champ de compétences, donc l'optique et la lumière, il s'est intéressé aussi à la réfraction de la lumière au temps crépusculaire. C'est-à-dire, on ne voit pas encore l'astre solaire, ou si c'est l'aube, ou il vient juste de disparaître, il est englouti derrière l'horizon, surtout si c'est en mer, mais il reste de la lumière, il explique cela par des effets de réfraction.
Cette question permet de rebondir, j'allais dire, sur aussi un autre aspect très important. Alors, première chose pour un peu répondre à cette question, c'est effectivement, c'est le premier qui s'intéresse à la réfraction de la lumière à l'horizon, qui définit d'ailleurs l'angle à partir duquel...
De 19 degrés.
Tout à fait, oui. Et qui est très très proche de ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais d'une manière générale, il s'est intéressé à la réfraction de la lumière. Mais il faut aussi souligner qu'avant lui, il y avait un de ses prédécesseurs, Ibn Sehl, qui lui, par contre, je pense que c'est très important aussi de le noter, c'est le premier qui étudiait la réfraction de la lumière, notamment dans ce climat, de cet engouement d'étudier les instruments ardents. Avant Ibn Sehl, on s'intéressait plutôt à des instruments ardents par réflexion. Et c'est le premier qui étudiait ces instruments par réfraction, c'est-à-dire d'essayer de concentrer la lumière par réfraction. Et c'est ce qui lui a permis de découvrir ce qu'on appelle aujourd'hui la loi de Snell-Descartes, la loi des sinus, qu'on attribue à Snell et Descartes. D'ailleurs, dans le monde anglo-saxon, on ne reconnaît pas la paternité de cette loi à Descartes, on dit Snell's Law, et dans le monde francophone, on rajoute Descartes. Mais en réalité, c'est Ibn Sehl, 980 à peu près, qui effectivement découvre cette loi et qui propose cette idée de génie de caractériser les milieux par ce qu'on appelle aujourd'hui l'indice de réfraction. Mais en fait, il ne disait pas l'indice de réfraction, mais un rapport de segments de propagation de la lumière dans le milieu. Par contre, pour revenir à Ibn al-Haytham, il va plus loin qu'Ibn Sehl. Il va étudier la réfraction et essayer de comprendre, d'expliquer pourquoi il y a cette réfraction. En proposant un modèle qui est basé sur la vitesse, la variation de la vitesse de la lumière. Quand la lumière passe d'un milieu raréfié vers un milieu dense, sa vitesse diminue et vice-versa. Et donc, il est dans cette approche de comprendre les phénomènes, de proposer une explication physique. Il n'est pas uniquement géomètre mathématicien, mais c'est un vrai physicien.
Alors, j'ai cru comprendre, mais c'est à vous de corriger mes erreurs, que... La loi de Snell-Descartes, nous sommes en France, donc je mettrai Descartes dedans, a tenu compte aussi de l'indice de réfraction du milieu, alors que l'intuition d'abord d'Ibn Sehl et puis celle d'Al-Hasan était de n'avoir peut-être pas introduit dans leur équation l'indice de réfraction.
C'est
un peu plus compliqué que ce que je raconte.
Mais je ne dirais pas cela comme ça. Je dirais qu'au contraire, l'idée d'Ibn Sehl, elle est plus puissante que d'introduire l'indice de réfraction. C'est-à-dire qu'il a eu l'intuition de caractériser les milieux par quelque chose qui décrit leur opacité d'une certaine manière. Et il avait cette approche, parce que c'était un grand mathématicien aussi, de traduire cette idée mathématiquement.
En tenant compte de la trigonométrie ou uniquement des angles ?
En tenant compte de la trigonométrie et des rapports de segments. Et qu'en fait, le passage de ce rapport-là à ce qu'on appelle aujourd'hui l'indice de réfraction, c'est un détail, j'allais dire.
Entendu. Alors, poursuivant, notre ami Al-Hasan était physicien de génie, était aussi, on l'a dit, un des premiers ingénieurs, si ce n'est l'ingénieur, en tout cas, au Caire, et il était aussi quelqu'un qui s'intéresse aux aspects philosophiques de la science. Donc il était dans ce que nous aurions appelé la science des sciences, l'épistémologie.
Oui, pas uniquement, effectivement, mais si on reste toujours sur l'aspect optique, parce qu'effectivement... Son œuvre ou ses écrits sont énormes. On lui doit près d'une centaine de titres dans différentes disciplines. Mais si on reste toujours sur l'aspect optique et l'impact de ses travaux sur l'optique, touche également effectivement des aspects philosophiques, des aspects théologiques. On est dans cette relation de l'être à son environnement, à l'univers, à la nature. Et par cette approche expérimentale, d'ailleurs, effectivement, cette approche expérimentale qui va changer aussi notre façon de concevoir le monde, de concevoir l'univers. Et c'est pour ça qu'aussi, certain nombre d'études récentes démontrent clairement l'influence de ces travaux sur toute la théologie de la Renaissance, même l'aspect art et culture aussi, sur les perspectives, la peinture de la Renaissance, pour montrer qu'effectivement, ces idées sur l'optique dépassent largement les sciences de la lumière.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Azzedine Boudliwa, physicien. Vous dirigez aussi une équipe de recherche et vous vous intéressez à l'optique et vous êtes un des artisans dans l'équipe qui a mis sur pied et organisé l'année de la lumière, notamment à l'UNESCO, il y a déjà de cela 2 ans. Nous parlons aujourd'hui d'Al-Hazan, Ibn al-Haytham, latinisé en Al-Hazan. C'est un homme de génie, nous l'avons dit, c'est un physicien. J'ai noté, il m'arrive rarement de m'emporter avec un certain lyrisme, mais là, quand il pourfend ceux qui imitent aveuglément et sans interroger l'œuvre des anciens. Or, mot à mot, on est... De nos jours, sans vouloir commettre ni du parachronisme, ni toute autre chose, c'est une idée contre le salafisme. Parce que le salafisme, ce n'est rien d'autre que d'imiter dans l'obéissance les pieux anciens, les valeureux prédécesseurs. Et là, c'est plutôt, il faut surtout passer par le filtre de l'entendement, ce qu'ils ont fait, corriger leurs erreurs quand il y en a, et accréditer ce qui est vrai, s'ils disent vrai.
Tout à fait. C'est le premier qui, effectivement, qui applique la méthode du doute, d'une certaine manière, dans son approche scientifique, et qu'il faut pas hésiter à remettre en question, remettre en cause les acquis, se questionner par rapport à ses acquis, par rapport aux ancêtres, et pour développer de nouvelles idées. Et c'est pour cela que, quelque part, c'est un exemple. C'est un exemple à prendre, c'est un exemple à considérer, notamment par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Vous le soulignez, effectivement, on a oublié cette tradition scientifique de l'époque de l'âge d'or de la civilisation musulmane, qui effectivement quelque chose qu'il faut réactualiser, parce que d'une certaine manière les gens se contentent tout simplement de prendre à la lettre ce que les ancêtres disaient, alors que ça soit du point de vue religieuse, la religion musulmane, elle incite à la réflexion, elle incite au questionnement, et on le voit notamment à travers les travaux de grands génies comme Al-Hasan ibn al-Haytham.
On dit qu'il a voyagé et qu'il serait allé jusqu'en Andalousie. Est-ce vrai ou faux? On n'est pas sûr de son passage.
Personnellement, j'ai pas relevé cet aspect-là, en tout cas dans mes lectures et dans ce que je sais. Probablement, en tout cas, ce qu'on sait d'une manière certaine, c'est qu'il a passé sa vie au Caire jusqu'à sa mort. Il a
développé. En 1039, disons-le.
Probablement après 1040.
Ah oui.
C'est aussi une question qui est posée. En tout cas, des grands historiens, et c'est l'occasion aussi de le souligner, les grands historiens, Roche des Rachettes, qui est vraiment le grand historien des sciences arabes, qui a écrit plusieurs dizaines de livres sur les travaux des savants arabes aux musulmans. Et effectivement, lui-même, il dit, il est très prudent par rapport à ça. Il faut plutôt parler
au-delà de 1040. On s'achemine vers la seconde moitié du XIe siècle. J'ai cru comprendre que Averroès a utilisé quelques-uns de ses instruments, et notamment ce qui s'apparenterait de nos jours à une sorte de longue-vue. En tout cas, Alhazen a parlé de la loupe et du grossissement, en l'expliquant même mathématiquement et en s'intéressant à une approche physique du mécanisme.
Ce qui est sûr, c'est que Alhazen a développé de l'instrumentation optique. Ça, c'est une certitude. De par, effectivement, son approche expérimentale, il a fabriqué ses propres instruments pour faire ses expériences. Ça va de ce qu'on pourrait appeler le réfractomètre d'Alhazen, la chambre noire,
la caméra obscura,
effectivement, aussi des instruments pour pouvoir étudier la vision binoculaire. Donc ça, on sait qu'effectivement, il décrit ça dans ses livres, il a développé un certain nombre d'instruments optiques. D'ailleurs, au passage, ça me permet aussi de souligner ou de donner cette information. Il y a un musée qui, en principe, va être aussi mis en place à Oman et qui reproduit justement ces instruments qu'Alhazen fabriquait à l'époque.
Et donc au sultanat d'Oman.
Au sultanat d'Oman, effectivement. Et d'ailleurs, c'est suite à la célébration de l'année internationale de la lumière. Et notamment avec la contribution du grand historien Roche des Rachettes, il y aura ce musée qui effectivement permettra à tout le monde de se rendre compte du génie de ce savant du point de vue instrumental et expérimental. Après, la diffusion de ces travaux, de ces instruments dans l'Empire musulman, effectivement, on peut supposer qu'il y ait une diffusion à travers l'Empire, peut-être vers l'Andalousie et certainement vers aussi l'Irak, Bagdad et au-delà. Et que, effectivement, sa théorie, par la suite, a circulé chez différents savants arabo-musulmans et, comme on l'a dit, après latins.
Oui, vous nous avez évoqué tout à l'heure ses disciples en enjambant les décades, les décennies et même les siècles. Vous avez évoqué Robert de Chester, entre autres. On a parlé de Roger Bacon, mais dans l'Empire, et notamment dans la partie orientale de l'Empire, il va y avoir quelqu'un comme Nasser al-Din al-Tusi, par exemple, ou d'autres, même un certain Shirazi, qui, eux, vont s'imprégner de son œuvre.
Tout à fait. Là, il y a peut-être deux aspects à souligner, mais il y a énormément de choses à dire. Mais peut-être, si on peut retenir deux choses, je dirais... par rapport à ses successeurs
oui.
arabes, effectivement.
Ou d'expression arabe, mais ils étaient notamment persans.
Tout à fait. Effectivement, peut-être aussi, c'est une question, est-ce qu'on dit la civilisation arabe ou arabo-musulmane ou musulmane, c'est une question qu'on posait. Probablement, ce qui serait plus peut-être juste, c'est de dire la civilisation arabe par rapport à la langue arabe, qui était la langue qui véhiculait les sciences à l'époque et qui était produite par des savants de différentes origines de tout l'Empire. Donc, effectivement, mais pour revenir à cette question des successeurs d'Ibn al-Haytham, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a les successeurs directement qui ont continué ces travaux de l'optique et à leur tête notamment Kamal Din al-Farisi. Kamal Din al-Farisi, il a écrit un livre, il a osé critiquer son maître,
rectifier
le maître Ibn al-Haytham.
Bien sûr, plus tard.
Tout à fait. C'est dans son livre Tanqih Kitab al-Manadir, la rectification, la correction du livre de l'optique.
Oui.
Et on lui doit aussi quelque chose de très important, c'est le premier qui donne une vraie explication physique à l'arc-en-ciel. la production des couleurs. Et il était dans la continuité d'Ibn al-Haytham, c'est-à-dire la continuité expérimentale. Il faisait des expériences pour comprendre comment la lumière se réfractait ou traversait des gouttes d'eau en remplissant des sphères d'eau. Et il faisait des expériences de ce type-là pour comprendre justement la constitution de l'arc-en-ciel. Après, vous avez aussi toute l'école astronomique de Maraga. Et là où il y a Tusi, Shiraz. Mais je pense qu'effectivement, c'est toute cette école qui a été imprégnée par les travaux d'Ibn al-Haytham dans le domaine de l'optique, dans le domaine de l'astronomie, et qui a vraiment perpétué et qui a continué ses travaux d'Alhassan d'une certaine manière.
Oui. Une autre fois, quand on aura le temps, on abordera ces questions. Al-Tusi, avec son fameux couple d'Al-Tusi, Copernic lui rendra hommage dans son De Revolutionibus Orbium Celestium, de la révolution des orbes célestes ou des sphères célestes, en disant que ce qui l'avait aidé à passer du mouvement circulaire au mouvement rectiligne. Vous avez évoqué Al-Farisi, qui lui est petit-fils, si je puis dire, du point de vue de la filiation intellectuelle, de Al-Tusi, qui lui-même s'est beaucoup, beaucoup inspiré des travaux du maître Al-Hasan.
Tout à fait.
Vous avez dit à Zeddine Boudriwa que, après une période où il a disparu des radars, pour emprunter votre expression, on commençait à s'intéresser à lui, et notamment pour lui rendre hommage, dans la ceinture principale des astéroïdes, on a nommé un astéroïde, enfin lui a donné, on a nommé par Al-Hasan, et c'est le fameux astéroïde 59-239. Et c'était de mémoire en février 1999. C'était pour lui donner ce nom, et un cratère lunaire porte son nom.
Et je pense qu'il mériterait plus que ça, parce que, effectivement, c'était la référence des sciences de la lumière jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Il était reconnu par tous les savants de la Renaissance et même les historiens. Mais par exemple, un historien français, Jean-Étienne Montucla, qui a écrit un livre sur l'histoire des mathématiques. Et dans ce livre, entre autres, il rappelait l'importance des travaux de Al-Hasan. C'est un grand scientifique, c'est un génie qui mérite la même place qu'un Newton, qu'un Einstein, de par la révolution qu'il a apportée, de par sa contribution aux sciences. C'est un bouleversement important dans la recherche scientifique et qui mérite effectivement non seulement le nom d'un cratère,
astéroïde.
Effectivement, je pense qu'il mériterait même, je dirais, d'être traité avec les mêmes égards que nos grands savants contemporains, notamment, pourquoi pas, dans les manuels scolaires, dans les manuels universitaires. Et c'est tout un travail, peut-être, qui reste à faire.
En tout cas, vous lui avez rendu hommage aujourd'hui. Merci beaucoup, professeur Azedine Boudriwa. C'était Question d'Islam. Vous retrouvez, chers amis auditeurs, toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attachée de production est toujours Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Pascal Bénard. La réalisation est toujours assurée par l'ami Franck Lilin.
چرخ ستم کار دل نالان تخم هجر عالم دین عالم دیر چ çektiğim efhane içersen sen mensin.